Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Locaux du Bio. C'est le retour de votre rendez-vous mensuel en partenariat avec la Biocoop Le Grenier. À mes côtés aujourd'hui, Camille Danel, chargée de communication de la Biocoop Le Grenier à Gap. Bonjour Camille.
Bonjour.
Et avec nous aujourd'hui, notre invité pour cet épisode, c'est Jordan Defebvre. Tu es le créateur de Wuji, fabricant de boissons comme le kéfir et le kombucha. Et tu es venu nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
On est ensemble pour expliquer un peu ce que c'est que ces boissons, au nom qui peut sembler étrange pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc le kéfir essentiellement et un peu le kombucha aussi. Et puis on parlera de leurs bienfaits pour la santé. On pourra dire quelques mots de l'évolution de leur présence sur le marché. Et puis on terminera sur quelques trucs et astuces.
Les locaux du bio.
Alors pour commencer et pour que nos auditeurs et auditrices soient tout de suite un peu au point sur le sujet dont on va parler pendant un moment, est-ce qu'on peut commencer par peut-être définir un petit peu tout ça ? Jordan, qu'est-ce que c'est exactement le kéfir ? Grande question.
Eh bien le kéfir, c'est une boisson qui viendrait du Caucase, a priori. Ça se présente comme des petits grains blancs translucides qu'on va faire fermenter dans de l'eau sucrée. Donc notamment du sucre blond de canne pour moi, avec des figues, des citrons. Et ensuite, on laisse fermenter plusieurs jours. Il y a deux fermentations. Donc une première en aérobie, c'est-à-dire qu'on laisse les échanges gazeux se faire. Et une deuxième en bouteille qui va permettre de créer du CO2 avec les sucres restants. Et donc ce qui va donner comme une limonade en fait naturelle.
Donc ça, le résultat ressemble un peu à une sorte de limonade au fruit.
Voilà, mais sans sucre. C'est très peu sucré, donc c'est une boisson que tout le monde peut boire, notamment les diabétiques.
Donc c'est assez intéressant, au contraire de la limonade qui est très très sucrée. Et j'ai vu aussi, en me renseignant un petit peu pour préparer cette émission, qu'il y avait plusieurs types de kéfir différents.
Oui, il y a le kéfir de lait, donc qui est fait à partir de lait de vache ou brebis ou chèvre. Et le kéfir de fruits que moi je pratique, c'est seulement du kéfir de fruits. Donc il n'y a pas de produit animal dedans.
Et donc les grains du kéfir de fruits sont différents de ceux du kéfir de lait, c'est ça ?
Oui, tout à fait, oui. C'est des bactéries et des levures qui sont pas exactement les mêmes.
Ok, et donc est-ce que par exemple le kéfir de lait est accessible à des gens qui sont intolérants au lactose malgré tout ?
Ben, j'en sais rien parce que je fabrique pas de kéfir de lait et du coup je me suis pas du tout renseigné sur...
Si je peux me permettre là-dessus, c'est que c'est beaucoup plus digeste que... en fait, de base, quand on mange un yaourt... Il y a des ferments lactiques dedans, mais avec le kéfir de lait, eh bien c'est encore plus puissant, donc beaucoup plus digeste.
Donc le kéfir de lait est plus accessible pour les personnes qui digèrent mal le lait.
Oui.
D'accord. Bon, malgré tout, c'est quand même pas ce que tu pratiques, Jordan. Toi, c'est plutôt du kéfir de fruits. J'ai vu aussi, dis-moi si ce que tu en penses, qu'il y avait des souches différentes en fonction des kéfirs, certaines qui étaient plus puissantes que d'autres. Est-ce que tu as un avis là-dessus ?
Non, j'ai pas vraiment d'avis, mais j'ai lu des articles sur le site du fabricant de kéfir Symbiose. Et lui, bah, il en parle, mais moi, je n'en sais rien. Je sais pas du tout où en est la science là-dessus.
Le kombucha, pour parler aussi, puisque c'est une autre des boissons que tu proposes, Jordan. Qu'est-ce que c'est exactement ? Ça aussi, le kombucha, c'est un peu différent du kéfir ?
Oui, lui, son origine, ce serait plutôt l'Asie. Donc, on pense que des levures indigènes auraient rencontré une tasse de thé sur une fenêtre, peut-être, quelque chose comme ça. Il y a plein de mythes et de légendes. Hein. Et là, c'est des levures et des bactéries qui vivent aussi en symbiose, comme pour le kéfir. Et ça se présente sous forme de mer, en fait. On appelle ça un zooglet ou un biofilm. Et donc, ça flotte à la surface de l'eau, un peu comme une mer de vinaigre. Et là, c'est plutôt du thé qui va fermenter ou des plantes.
D'accord, donc c'est plutôt une boisson fermentée à partir de thé. Est-ce qu'au niveau du goût, c'est différent ?
Oui, c'est très différent, oui. Il y a des gens qui vont apprécier en bouche le kombucha et pas du tout le kéfir, et inversement.
Vu qu'il y a de la fermentation dans les deux, est-ce qu'il y a de la présence d'alcool ?
Oui, mais c'est une présence qui est très très faible, en fait. C'est en dessous de 0,25.
Donc on peut en boire et conduire après sans problème.
Ah oui, oui, c'est comme boire du vinaigre de cidre légèrement alcoolisé, quoi.
D'accord. Camille, est-ce que tu veux rajouter des choses ?
Je dirais que au niveau du kéfir, les gens qui ne connaissent pas confondent un petit peu les deux, parce que c'est deux boissons pétillantes naturellement, sans sucre, qui sont fermentées et donc vivantes. Mais en effet, je suis d'accord avec Jordan, le goût est bien différent. Et du coup, c'est aussi deux cultures différentes. C'est que le kéfir, les grains de kéfir se donnent beaucoup. on peut facilement en trouver, soit dans les petites annonces sur Internet, soit nous-mêmes dans nos magasins. Souvent, des clients laissent des petites annonces. Alors que c'est vrai que le kombucha, à part avoir une mère, comme l'expliquait Jordan, de base, eh bien, c'est quelque chose qui se donne moins et qui vient plus du coup d'Asie. Et du coup, c'est plus les personnes à la base. Maintenant, ça s'est beaucoup démocratisé, mais avant, c'était beaucoup plus les gens qui faisaient du yoga qui consommaient ça dû à la culture indienne, etc. Donc, c'est vrai que c'est deux produits qui se ressemblent au premier abord, mais qui n'ont pas du tout les mêmes racines et la même culture.
Effectivement, et puis on pourra reparler un peu des habitudes de consommation que tu observes de ton côté tout à l'heure. Pour revenir à Wuji, du coup, donc ta structure, ton entreprise où tu fabriques, est-ce qu'on dit brasserie déjà pour commencer ?
Oui, on peut se permettre, je crois, de dire brasserie.
Et donc, pour en revenir à ta brasserie, Wuji, comment est-ce que c'est né ? Depuis quand est-ce que ça existe ?
Le numéro de tiré, il date du 30 avril 2022. J'ai créé ça avec ma copine. On avait envie de travailler à notre compte. Et on a créé une buvette biologique en faisant les marchés dans le nord du département. Et on s'est aperçu que le kéfir fonctionnait vraiment très bien, que les gens étaient en demande. Et donc, on a fait du kombucha aussi. Et on a commencé à vendre quelques bouteilles, en plus des verres qu'on vendait sur la buvette biologique. Et donc après, certification bio, partenariat avec les magasins bio locaux, des restaurateurs, des bars. Et voilà.
Donc ça a un peu plus de 2 ans maintenant. Est-ce que vous vous intéressiez déjà tous les deux aux boissons avant ça? Ou comment est-ce que c'est venu cette envie de proposer des boissons comme celle-là?
C'est un peu du hasard. Hein. Ma copine connaissait le kéfir, c'est elle qui savait faire le kéfir. Le kombucha, nous deux, on connaissait de nom, mais on ne savait pas en faire. Donc on a appris en regardant des recettes. On a élaboré nos propres recettes. Et surtout parti d'un constat, c'est parti d'un sentiment en fait. Alors l'éco-anxiété qu'on a transformé en éco-lucidité et en action en fait. On avait besoin de faire quelque chose pour participer au monde en fait. Et quelque chose qui avait du sens. Donc du coup, produire une boisson qui est bonne pour la santé, plein de micro-organismes qui nourrit le microbiote, des bouteilles qui sont consignées. Donc c'est ça qui nous a donné envie, c'est de créer un monde désirable, on va dire.
C'était d'apporter votre pierre à l'édifice du monde que vous souhaitez voir finalement.
Exactement.
Camille.
Et tu nous disais aussi qu'il y a une partie donc, qui sont vendues dans des magasins, mais une autre partie chez des restaurateurs, des bars. Comment ça a été reçu les premières fois que tu allais leur proposer tes boissons ?
J'ai eu des très très bons retours dès le début en fait, avec certains restaurateurs dans le nord des Hautes-Alpes, hein, surtout l'Argentière, Briançon. Et d'autres qui ont pu rire par méconnaissance. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut retrouver le kéfir dans des restaurants très populaires, comme dans des restaurants, on va dire, plus gastronomiques. Donc, il trouve sa place partout.
Et donc, tu proposes dans des restaurants, mais pas forcément dans des restaurants à Gap, plutôt dans le nord du département, c'est ce que tu nous disais ?
J'ai développé, oui, l'entreprise dans le nord du département, parce qu'on habite dans le nord du département. Mais je suis en recherche de nouveaux partenaires dans le sud du département,
donc
notamment à Gap.
Si des restaurateurs gapensais nous écoutent, vous savez où chercher. D'ailleurs, tu dis que vous êtes basé dans le nord du département. Où est-ce que vous êtes situé exactement ?
Alors nous, on habite Pellevoux. Et le kéfir, on le fabriquait avant ensemble et maintenant je le fabrique tout seul. Parce qu'économiquement, ça ne fonctionnait pas à deux, ce n'était pas viable. Et je le fabrique à l'Argentière, l'ABC. Et à propos, je suis en recherche d'un nouveau lieu dans ma vallée, Valouise-Pellevoux.
Pour étendre justement ta production ?
Pour créer un labo plus proche de chez moi.
Donc tu as tout un laboratoire qui te permet de brasser en grande quantité le kéfir et le kombucha ?
En grande quantité, tout est relatif, je brasse par 90 litres.
Ce qui fait combien de brassins par...
Là, par exemple, tout à l'heure, je vais aller retirer mes figues et mes citrons et j'ai fait 3 fermenteurs, donc 3 fois 90 litres. Ça, c'est pour le kéfir.
Et c'est une fois par semaine
Ça dépend de la demande, en fait.
D'accord, tu produis en fonction de la demande.
Voilà, là, je me prépare aux vacances de février. Et...
Camille,
tu as prévu pour l'instant 3 recettes de kéfir. Comment vous les avez... Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler et comment vous les avez développées au niveau de ces arômes-là ?
Alors, il y a le kéfir original. Ensuite, direct, on a eu le kéfir gingembre. Donc là, c'est très simple. Hein. On prend du gingembre frais, on le passe à l'extracteur à jus manuel. Et il y a eu le kéfir hibiscus. On voulait faire quelque chose qui ressemble au bissap. Et en faisant le marché, bah, j'ai rencontré une dame qui fait pousser du poivre Sichuan chez elle. Du coup, elle m'a donné un plan. Et puis voilà, on a essayé. On a vu que ça se mariait bien, poivre Sichuan et hibiscus. Et il y a une quatrième recette l'été, c'est menthe.
D'accord.
Et du coup, pareil pour le kombucha, il y a plusieurs recettes différentes qui existent.
Exactement, oui. Il y a l'original qui est à base de thé noir, le verveine et le thé vert jasmin.
Donc on a tout un choix de possibles. Camille, depuis combien de temps est-ce que tu connais les produits de chez Ouji, justement? Et depuis combien de temps est-ce que vous les vendez, vous, à la Biocoop?
Alors Jordan nous avait sollicité il y a quelques années quand il s'est lancé, je pense. Mais nous, chez nous, la demande n'était pas très forte à ce moment-là et on avait déjà des marques françaises, nationales, qui étaient déjà bien implantées et surtout bien demandées dans nos magasins. Donc, il n'y avait pas trop de marge de manœuvre et on l'a fait rentrer finalement cette année. Donc, c'est le petit nouveau là de l'année, notre nouveau producteur local. On se rend compte en fait que on a de plus en plus de demandes sur le et de consommation du coup des consommateurs sur le kéfir et le kombucha.
Génial, ça aussi on pourra le développer tout à l'heure. Avant de passer à ça justement, je voulais vous proposer de parler un petit peu des bienfaits pour la santé du kéfir puisque apparemment il y en a. Jordan, est-ce que tu veux nous en dire quelques mots?
J'ai une citation que j'ai prise dans une série, la série documentaire sur France Culture, qui s'appelle Tous en sel. C'est « Il y a autant, voire plus, de micro-organismes dans nos intestins que d'étoiles dans le ciel, visibles. » Et je trouve que ça illustre bien le propos. On est en fait une myriade de bactéries, de levures à l'intérieur de notre microbiote. Et les boissons comme le kéfir ou le kombucha viennent apporter, ensemencer ce microbiote.
Et justement, tu parles de microbiote depuis tout à l'heure. Pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas très bien, est-ce que tu saurais nous le redéfinir?
On pourrait dire que le microbiote, c'est une assemblée. C'est des bactéries, des amibes, des protozoaires, des virus qui communiquent entre eux, qui s'envoient des signaux chimiques et qui nous permettent en fait de vivre, de digérer, de plein de choses. Ils régulent plein de choses dans notre corps. Sans eux, il n'y aurait pas la vie, tout simplement.
Je crois avoir vu passer notamment une définition aussi de l'INSERM, de l'Institut National de Santé et de Recherche Médicale, qui parle du fait qu'il y en a dans notre intestin, c'est là où c'est le plus développé, qu'il y en a partout dans notre corps, mais que dans notre intestin, c'est le plus peuplé en microbiote. Et je crois que c'est 10 puissance 12 à 10 puissance 14 micro-organismes, c'est gigantesque. Donc ça montre effectivement qu'il y a du monde. Est-ce que du coup, c'est donc le kéfir joue sur le microbiote?
A priori, oui. C'est pareil, moi, j'ai pas trop envie de m'avancer parce que la science aujourd'hui peut dire quelque chose un jour et se contredire le lendemain. Mais quelques infos que j'ai collectées, c'est que ça aide pour une meilleure digestion, ça stimule l'immunité, ça régule le transit, ça améliore le syndrome du côlon irritable, ça optimise la synthèse de certaines vitamines, B et K, ça lutte contre des infections comme l'hélicobactère pylori. En gros, ça augmente l'homéostasie du système intestinal.
Est-ce que tu peux nous définir l'homéostasie?
Je ne suis pas sûr de ma définition, mais je dirais que c'est un processus qui existe dans tout être vivant qui pousse l'organisme à aller vers la guérison.
Donc en somme, si on essaye de résumer un petit peu tout ça, notre microbiote, donc tout ce qui se passe dans nos intestins, qui joue sur notre santé en général, aurait peut-être des petits coups de pouce grâce à des produits fermentés comme le kéfir.
Oui.
Et il n'y a pas que ça, finalement, comme produit fermenté. Camille, est-ce qu'il y a d'autres produits fermentés qui te viendraient à l'esprit, qui pourraient exister, justement, et qui auraient des bienfaits également sur la santé?
Eh bien oui, alors le plus connu, et c'est justement en ce moment, en hiver, c'est là où on le mange, c'est la choucroute, par exemple. Donc c'est du chou fermenté. Les légumes qui sont, du coup, lacto-fermentés, sont justement tout comme le kéfir et le kombucha, bon pour la santé. Et en plus, c'est des super moyens de conserver ces légumes.
Donc c'est à la fois une bonne méthode de conservation, c'est plutôt bon aussi, aussi bien pour le kéfir que pour la choucroute qui aime bien, pour ceux, celles et ceux qui aiment bien le goût lactofermenté, mais c'est aussi des bénéfices pour notre digestion et donc pour notre santé en général. On arrive bientôt à la moitié de cette émission. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe à la pause musicale ?
Dans la culture japonaise, il y a une portion de produits fermentés à tous les repas, notamment des produits lactofermentés.
Donc c'est très très présent dans certaines cultures. Je crois que le kéfir, tu disais tout à l'heure que ça viendrait du Caucase, il me semble que c'est présent aussi beaucoup en Russie,
oui,
et en Pologne, dans les pays de l'Est. Donc effectivement, il y a certaines cultures qui l'utilisent constamment. Comme je le disais, nous arrivons à la moitié de notre émission. Je vous propose donc qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour parler un petit peu de l'évolution de la consommation. On en a parlé, on l'a évoqué avec Camille, on en parle tout de suite. Et pour cette pause musicale, c'est toi Jordan qui nous a proposé d'écouter Suzanne et son titre « Il est où le SAV ?» On écoute ça.
On a cassé la planète, il est où le SAV ? On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
Dans la vie, il y a des cactus et sur ce même cactus, depuis, il y a du plastique. Aïe, sur les plages de Koh-Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, coca plastique qui flotte sur le Pacifique. Un Capri Sun à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe.
On a cassé la planète, il est où le SAV ? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
Y'a comme un air de chicha sur les buildings pékinois. Le smog made in China. Les usines crachent leurs poumons. On est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton. On mange des glaces en février. Y'a plus de glace sur les glaciers. Les sources polaires vont transpirer. Bulldozer dans les forêts. L'orang-outan est délogé pour la pâte à tartiner.
Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe.
On a cassé la planète, il est où le SAV ? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV ? On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
Il est trop tard. Que sommes-nous face à l'euro, le dollar? Un bout de charbon dans une marée noire. Une tumeur qui ne crée que des cauchemars. Mais je me concentre sur ce que je veux donner. Une énergie commune qui peut rassembler. Je m'apprêtais à contacter le SAV. Mais le numéro est dévié sur ma ligne.
On a cassé la planète, il est où le SAV?
Bon retour sur Fréquence Mistral. Vous êtes toujours dans notre émission Les Locaux du Bio avec à nos côtés Camille Danel, chargée de communication de la Biocoop Le Grenier, notre partenaire pour cette émission. Et puis également Jordan Defay, créateur de la marque de boissons Bougie.
Les Locaux du Bio.
On est de retour donc ensemble. On venait de parler un petit peu de ce que c'est que le kéfir et le kombucha que tu commercialises, Jordan. Et puis à présent, Camille, je voulais aborder un peu plus en détail avec toi, mais pourquoi pas avec toi aussi, Jordan, d'ailleurs, l'évolution de la consommation. Est-ce que toi, Camille, tu as remarqué une évolution au sein de la Biocoop, justement, de la consommation ? Tu l'évoquais un peu tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais entrer dans le détail ?
Oui. Donc, il y a quelques années, quand Jordan et sa compagne nous ont demandé, nous ont sollicité de faire entrer leurs produits dans nos magasins, on n'avait pas assez de demandes de consommateurs pour faire rentrer un autre produit. On avait peur que ça ne marche pas. et qu'on puisse pas continuer de leur en commander. Et maintenant, on voit qu'au contraire, il y a de plus en plus de consommateurs qui sont intéressés par ces produits-là, à la fois déjà pour le bienfait, pour la santé, mais pas que, pour leur côté déjà sans sucre. Avoir une boisson pétillante, naturelle et sans sucre, c'est assez rare aujourd'hui. Je pense que les consommateurs sont de plus en plus informés des méfaits des sodas. Et là, ça permet d'avoir une boisson sympa pour petits et grands, donc non sucrée et sans alcool. Donc voilà, le lendemain du Dry January, ça permet d'avoir une alternative assez saine et très sympa, très, très goûteuse pour l'apéro ou autre, qui peut se déguster pour petits et grands. Donc là, c'est un vrai plus. Et je dirais aussi, au niveau culturel, parce que le kombucha, en tout cas, vu que ça a des racines plutôt asiatiques, ça a été pas mal consommé par des personnes qui pratiquaient beaucoup le yoga. Donc chez nous, c'était un peu une niche. Et depuis plusieurs années, ça y est, ça s'est beaucoup popularisé. Et on en trouve en petit format. Donc les gens peuvent en boire facilement, comme si buvaient une boisson, une limonade ou autre. Voilà. Et le kéfir, pendant longtemps, ça a été une boisson dont on se passe les grains. On évoquait en émission que c'était considéré comme la limonade du pauvre, parce que c'est assez facile d'accès quand on a les grains. Et aujourd'hui, du coup, les personnes qui n'en ont jamais fait eux-mêmes à la maison, ils peuvent en acheter dans le commerce. Et ça permet aussi de découvrir d'autres goûts un peu rigolos et originaux, comme ceux à l'hibiscus de Wuji, par exemple. Donc, c'est vrai que ça crée une offre assez large pour les consommateurs et qui découvrent d'autres types de produits.
Effectivement, oui, ça fait changer un peu des habitudes et ça permet d'avoir des produits un peu plus originaux, soit à consommer, soit à proposer aussi à ses invités, à ses convives. Du coup, toi, la clientèle de la Biocoop connaît déjà le kéfir. Est-ce qu'il faut présenter encore le produit ou est-ce que ça commence à être vraiment suffisamment populaire ?
Il faut quand même le présenter pour qu'il soit comprendre la distinction par rapport au kombucha. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois que même, à titre perso, j'ai des amies, quand elles étaient enceintes, elles faisaient leur kéfir elles-mêmes, elles ont arrêté d'en consommer parce qu'elles se sont dit « Ah, il y a de la présence d'alcool quand même », alors que, comme l'a dit Jordan, c'est en présence infime. Donc voilà, ça, il faut quand même l'expliquer, que même pour les enfants, ça peut se consommer. Voilà, donc c'est quand même quelque chose à expliquer, bien expliquer la différence entre le kéfir et le kombucha.
Jordan, en parlant de présence d'alcool, tu nous racontais tout à l'heure aussi hors antenne qu'il y a quand même eu des histoires, tu as entendu parler d'histoires de personnes qui faisaient leur propre kéfir au kombucha qui avaient terminé alcoolisé.
Oui, exactement, oui, c'était pour du kombucha et je pense que le taux de sucre devait être élevé et puis ils l'ont laissé en plein soleil pendant 3 semaines, donc ça reste un cas particulier. Moi, ça me fait penser par contre aux enfants, parce que je connais des enfants en très bas âge qui ont goûté du kéfir à 3 mois, par exemple. Et on se rend compte que quand le palais n'est pas corrompu par le sucre, naturellement, en fait, les enfants aiment le goût de l'umami, le goût de la fermentation.
Donc, il y a plusieurs choses très intéressantes là-dedans. Pour peut-être ne pas trop habituer les enfants au goût du sucre, ça peut aussi être une solution intéressante. Et effectivement, ces histoires d'alcool, de présence d'alcool, c'est des histoires vraiment très... très unique et vraiment exceptionnel, qui n'arrive pas très souvent. Je voulais vous parler aussi du fait qu'en me renseignant un petit peu sur la boisson pour préparer l'émission, j'ai vu que de grandes marques produisaient elles aussi du kéfir, notamment Danone, Nestlé, etc. Elles sont accusées, par exemple, par l'association de consommateurs UFC Que Choisir, de faire des faux kéfirs avec 100 grains de kéfir qui sont la base de la fermentation. Jordan ?
Et ça m'étonne pas du tout. Moi, je fréquente pas les grandes surfaces du coup, je connais pas du tout ces produits, mais j'imagine, oui, qu'avec du gaz carbonique, on puisse faire de fausses boissons comme le ginger beer actuellement, qui est très à la mode aussi, qui est pas du tout fait avec la vraie recette. On utilise du gaz carbonique et donc pareil pour le kéfir et pour le kombucha. Après, pour trouver un kéfir bon, normalement, faut qu'il soit réfrigéré dans les magasins. Pour le kombucha, c'est une autre histoire. Il peut être vivant et très bon tout en étant posé sur des étagères non réfrigérées.
Est-ce qu'il y a des choses à chercher sur les étiquettes qui pourraient nous donner des indices ?
Oui. Pour le kéfir, par exemple, on écrit « grain de kéfir ». Ce n'est pas pasteurisé, par exemple.
D'accord.
Mystérilisé, bien sûr.
Puisque la fermentation permet la conservation.
Pour moi, alors moi, c'est mon cas à moi, mais je fais une date courte. Pour le kéfir, je mets 4 mois.
D'accord.
C'est le temps de nos saisons ici pour le ski, 4 mois. Comme ça, je sais qu'il est fabriqué, consommé dans un délai très court et qu'il est tout le temps frais, en fait.
Ce qui permet de s'assurer, effectivement, d'une bonne consommation. Camille, est-ce que toi, de ton côté, tu as vu des produits comme ça passer à la Biocoop? En tout cas, est-ce que vous avez été démarché par des produits comme ça?
Non, nous, effectivement, les produits qu'on vend, du coup, que ça soit kéfir ou kombucha, ce sont des produits surtout vivants, vu que c'est de la fermentation, du coup, non pasteurisés. Ça, c'est clair, c'est le premier indice, en fait. Si on voit des kéfir ou kombucha pasteurisés, là, tout de suite, il faut se poser la question.
Une dernière chose, est-ce que vous pensez que la popularisation du kéfir est due uniquement aux bienfaits pour la santé, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez global? Est-ce que vous avez un avis là-dessus?
Ouais, moi, il y a un mot que j'ai appris récemment, c'est la littératie. C'est au-delà de savoir lire les mots, c'est le fait de savoir utiliser les mots. Et ben, pareil, en santé, en fait, on peut faire de la littératie en santé. C'est prendre soin de sa santé en lisant des études ou des résumés d'études scientifiques. Et donc, du coup, ça fait partie des usages, en fait, aujourd'hui, où les gens s'approprient eux-mêmes leur santé en ayant une meilleure alimentation.
Ils sont un peu plus acteurs de leur santé et du coup, des produits comme les tiens, Jordan, peuvent aller dans leur sens, finalement. Mmh. Pour terminer un petit peu sur la commercialisation du kéfir, et en particulier celle de Wuji et celle au sein de la Biocoop, il me semble que les bouteilles sont consignées.
Exactement. Alors, jusqu'aujourd'hui, les bouteilles, je les consigne avec les étiquettes. Je sépare les étiquettes et les bouteilles pour les laver moi-même. Bientôt, je vais m'associer avec l'association Comme une bouteille qui s'occupe de collecter toutes les bouteilles qui sont standardisées pour le réemploi au niveau national dans les départements 04-05. Ils s'occupent de récupérer, en fait, dans les magasins partenaires, toutes ces bouteilles.
Camille, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose?
Nous, on est lieu de collecte de ces bouteilles. Du coup, si jamais vous avez des bouteilles de 1 litre, 75 centilitres et 1 litre, des bouteilles de bière, des bouteilles de jus, des bouteilles de vin aussi, et qu'il y a le petit logo du réemploi dessus, eh bien, vous pouvez les amener chez nous. Et peut-être que vos bouteilles, donc si vous, notamment des bouteilles de jus, peut-être qu'un jour, elles seront rachetées par Wuji et réutilisées, et qu'on les retrouvera dans nos magasins, du coup, pour une seconde vie.
Alors peut-être qu'on peut préciser pour celles et ceux qui ne savent pas exactement à quoi ressemble le logo réemploi. Il s'agit de 4 flèches qui se dirigent vers le centre et la tête des flèches, donc le centre de ces 4 flèches, forme une bouteille. Donc c'est assez évident. N'hésitez pas à regarder sur internet, bien sûr, à quoi il ressemble pour que ce soit plus clair pour vous. En tout cas, voilà, ce logo réemploi figure sur les bouteilles qui sont consignables. Les locaux du bio. Et ben pour terminer cette émission, je vous propose qu'on partage un peu des trucs et astuces autour du kéfir. Pour commencer, est-ce que vous avez des petites astuces pour un apéritif sans alcool, justement, puisque on évoquait ça, on évoquait aussi le Dry January. Bon, là, c'est pour les auditeurs et auditrices qui voudraient continuer un petit peu à faire des apéritifs sans alcool. Est-ce que vous avez des petites choses à nous partager?
Eh bien, consommer du kéfir.
Ou du kombucha.
Ou du kombucha. Avec quoi est-ce qu'on peut les accompagner?
Avec tout ce qu'on veut. Il faut être créatif. On peut tout essayer.
Tout à l'heure, Jordan, tu nous faisais goûter du kombucha qui était fait avec du thé noir, qui ressemblait un peu au goût à du cidre. Du
Exactement.
Cidre très léger.
C'est les notes d'agrumes, en fait, du thé noir qui donnent ce goût un peu cidre.
Donc en tout cas, on peut être créatif et utiliser kéfir et kombucha pour nos apéritifs. Camille, tu voulais nous parler éventuellement également des autres produits fermentés, et notamment lactofermentés.
Oui, parce qu'on a parlé du coup des bienfaits de la fermentation et donc de la lactofermentation. Les légumes lactofermentés, ça en fait partie. C'est très facile à faire et c'est une astuce de conservation qui existe depuis des millénaires, bien avant l'apparition des conserves. Et qui est très bonne aussi pour la santé parce que vu que les légumes ont été prédigérés, c'est beaucoup plus digeste et facile à digérer. Voilà. Et en plus, on garde, comparé aux conserves ou lorsqu'on où lorsqu'on fait bouillir les légumes, eh bien, grâce à la lactofermentation, on garde tous les légumes, on garde toutes les qualités nutritives des légumes, donc toutes les vitamines, etc. Et c'est hyper simple à faire. Il suffit d'avoir un grand bocal qui se ferme avec des taquets sur le côté, de rajouter de l'eau froide sur les légumes crus, du gros sel. Souvent, le gros sel, c'est pas beaucoup, c'est selon les recettes de 1 à 3%. Donc, c'est moins que la quantité de sel qu'on va mettre dans l'eau pour faire cuire ses pâtes, par exemple. Voilà. On remplit d'eau jusqu'à 2 cm du bord. Faut pas en mettre trop parce que, avec la fermentation, ça peut grossir et si on ouvre après, ça peut exploser. Donc, il vaut mieux pas remplir jusqu'à ras bord. Et ensuite, voilà, ça peut se conserver plusieurs semaines. On les met dans un endroit sec et à l'ombre. Voilà.
Donc, il suffit en fait de l'eau, du sel, les légumes crus à l'ombre dans un bocal, pas plus de 2 cm en dessous du bord pour pas que ça nous explose au visage. Et c'est tout.
C'est ça, exactement, ouais.
C'est effectivement très simple et bon à savoir.
Pour, et c'est bon à manger cru à l'apéro, par exemple, si vous faites votre petit bocal avec. Des carottes lacto-fermentées et que vous pouvez ouvrir et le boire avec un petit kéfir pour l'apéro, par exemple.
Les pickles.
Et ouais.
Comme ça, en plus, on est pertinent sur le mode de consommation. Et puis, je crois que j'avais une dernière question. Oui, au niveau du kéfir, justement, on évoquait tout à l'heure le fait que c'était nommé comme étant la limonade du pauvre parce qu'il y avait des habitudes d'échange de grains de kéfir, de partage de grains de kéfir. Jordan, est-ce que tu voudrais nous partager quelques astuces à ce sujet-là ? Aussi bien pour où est-ce qu'on peut trouver des grains de kéfir et pourquoi pas, comment est-ce qu'on peut en faire soi-même, si tu acceptes de nous partager un peu ces astuces ?
Eh bien, tout simplement, il faut se procurer des grains de kéfir dans un magasin bio autour de chez soi. Souvent, voilà, dans les magasins bio, on peut en laisser pour ceux qui en ont trop chez eux. Et après, il suffit de mettre 40 grammes de grains de kéfir pour un litre d'eau, 20 grammes de sucre blond de canne, 16 grammes de figues ou autres fruits séchés, un peu de citron, je dirais 2-3 rondelles pour un litre, et laisser fermenter ça pendant au moins 2 jours à température ambiante, retirer les figues, les citrons, et continuer la fermentation pour encore 1 voire 2 jours avant de mettre en bouteille, pour ensuite la mise en bouteille, bah, soit le parfumer à quoi que ce soit, ou faire un kéfir original et fermer la bouteille, et faire la deuxième fermentation pour que les gaz carboniques se créent, et que ça pétille, voilà.
Donc la deuxième fermentation se fait lorsque la bouteille est fermée.
Exactement. Et attention, parce que si on laisse trop de sucre, bah, la bouteille, si elle n'est pas faite déjà pour la limonade, elle peut exploser. Et même en étant faite pour la limonade, s'il y a trop de sucre, quand on va ouvrir le bouchon, par exemple un bouchon mécanique, ça va faire champagne.
Ah,
donc okay. L'astuce, c'est vraiment de goûter avant et de se rendre compte qu'il y a suffisamment un taux de sucre bas pour pouvoir mettre en bouteille.
Que le goût ne soit pas trop sucré. Est-ce qu'on peut rater son kéfir ?
Sûrement.
Ça doit arriver.
Ce qui peut arriver, par contre, c'est de le laisser mourir, de l'oublier et de plus nourrir les grains. Et moi, on m'a donné comme astuce dans ces cas-là, si on part en vacances, par exemple, de garder les grains de kéfir. On peut soit les enlever, les mettre au frigo. Est-ce que ça marche, ça, pour éviter qu'ils meurent ou...
Oui, l'activité microbienne, en fait, ça arrête à partir de 5 degrés, en fait, en dessous de 5 degrés. Donc, elle diminue fortement dans un frigo à 7-8 degrés, bien sûr. Et il faut le mettre dans un bocal Le Parfait, par exemple, recouvrir d'eau jusqu'en haut et fermer le bocal, laisser un peu de sucre et voilà.
Ben parfait, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Jordan, d'être venu nous parler de tes produits. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut te retrouver en dehors de la Biocoop, justement ? Est-ce que tu as, par exemple, un site internet, d'autres sources où on peut trouver tes produits ?
Non, je n'ai pas de site internet. J'avais au début un Instagram et finalement, c'est pas...
Donc, il suffit de se renseigner auprès peut-être de la Biocoop, des Biocoop Le Grenier à Gap pour trouver tes produits. Et puis, on l'espère qu'il y aura des restaurateurs qui voudront bien proposer également tes produits. Merci en tout cas à toi d'être venu nous parler de tout ça et nous expliquer comment ça se passe, nous partager toutes ces astuces. Merci Camille de ta présence également. On se retrouve nous lors du prochain épisode pour parler des consignes de bouteilles justement, je crois.
Oui, exactement, pour parler réemploi du verre et mise en place de la consigne des bouteilles en verre avec comme une bouteille.
Parfait, et bien à la prochaine fois alors.
À bientôt.
Merci.
faut être créatif. On peut tout essayer.